Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite une joyeuse fête de la Pentecôte. Nous voici au mois de mai et peut-être vous avez déjà planté ou semé votre jardin potager si vous faites cela. Je sais que nos frères et sœurs en France, en Belgique, en Suisse, ils ont presque toujours un jardin potager. Nos frères en Martinique aussi ont des plantes autour de leur maison. Et en Afrique également, c'est très courant de planter quelque chose afin de pouvoir cueillir des fruits au moment de la moisson. Moi, quand j'étais petit, dans notre famille, on avait parfois un jardin derrière la maison. J'ai appris à m'en occuper, tirer les mauvaises herbes, etc., chose que je n'aimais pas trop, mais il faut le faire. Quand nous habitions, différents coins depuis les années, avec notre grille de voyage maintenant, il est difficile d'avoir un jardin pendant l'été là où nous sommes. Mais avec les restrictions du Covid l'été dernier, nous avons planter un petit jardin de potager et ça m'a rappelé beaucoup de choses. C'est une chose agréable et c'est une bonne éducation également de travailler avec la terre de cette manière. Nous voici aujourd'hui le jour de la Pentecôte et un sujet qui est utile à bien comprendre, qui est lié à la Pentecôte, c'est de considérer le symbolisme de cette fête liée aux lois et aux principes de l'agriculture que Dieu avait établi dans la nation d'Israël à cette époque-là. Parce que pour la nation ancienne d'Israël, les fêtes annuelles de l'Éternel étaient liées à l'agriculture. Toutes les fêtes avaient ce lien. Par exemple, au moment de la fête des pains sans levain, le lendemain du sabbat hebdomadaire qui tombait pendant la fête, on agitait une gerbe de prémices. On offrait des prémices à Dieu. C'était une célébration de la récolte de printemps, les blés, et à partir de cette offrande, on pouvait commencer à manger ce qu'on récoltait. C'était la première récolte dans l'année. Les fêtes d'automne, en particulier la fête des tabernacles, étaient liées à une célébration de la récolte finale, les fruits en fin de saison, et les raisins et autres qui apportaient beaucoup de joie. Et donc, les fêtes de l'Éternel, la Pentecôte également, a un lien avec l'agriculture, comme nous allons le voir au cours de ce sermon. Mais avant de considérer en détail ces liens de la Pentecôte, en tant que chrétien, il est important de comprendre un lien qui existe entre les êtres humains et la terre. Revenons dans la Genèse et regardons le début. Nous allons voir que Dieu a créé l'homme pour que celui-ci puisse avoir un rapport privilégié avec la terre d'où il était tiré, d'où nous sommes tirés. Regardons Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dieu a tiré l'homme, il forma l'homme de la poussière de la terre. Nous sortons de la terre sous nos pieds. C'est notre origine. Et Dieu souligne ce fait plusieurs fois dans la Bible. Nous sommes terre, nous allons retourner à la terre. Ça, c'est un point de départ. Il y a un lien très étroit entre l'être humain, il devrait y avoir un lien très étroit entre l'être humain et la terre. Dans Genèse chapitre 1, Genèse 1, verset 27, Genèse chapitre 1, verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu a créé cette terre avec de multiples écosystèmes qui coopèrent entre eux. Et tout cela a été mis sous l'autorité des êtres humains. L'être humain a le droit de se servir de ce que Dieu a mis sur cette terre. Maintenant, parfois, ces versets ont été déformés dans le passé, ou pour dire que l'homme peut faire tout ce qu'il veut, même détruire ce que Dieu a créé. Et en fait, ce n'a jamais été la volonté de Dieu. On doit bien prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Parfois, c'est mal tordu, c'est tordu également, dans le sens où les gens montrent du doigt aux chrétiens pour dire « mais vous croyez tout permis sur terre ». Et en fait, peut-être que certains avaient cette attitude dans le passé, mais ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Dieu nous confie la gérance de cette terre et tous les systèmes qui s'y trouvent. Dans Genèse chapitre 2, si nous revenons dans le chapitre 2 et au verset 8, nous voyons autre chose à propos de la terre et la création. Genèse chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder, pour en prendre soin. Le métier de notre premier ancêtre, c'était d'être jardinier. C'est ce qu'il devait faire. Il devait s'occuper de ce jardin. Un jardin très spécial. Et Adam avait la responsabilité de le garder. Nous voyons par ces quelques passages déjà qu'il y a un lien étroit, un lien spécial entre l'homme et la terre. Entre Dieu, les hommes et la terre. Parce que c'est Dieu qui a créé ce système. Il a mis tout en place pour que les choses se déroulent de cette manière-là. Maintenant, dans Genèse chapitre 3, verset 17, après que l'homme a détruit la relation qu'il avait avec son Créateur, sa relation avec la terre a changé également. Genèse chapitre 3, verset 17, après le péché, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces qu'on ne peut pas manger, qui ne sont pas comestibles. Ce sont des obstacles à l'agriculture. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. « Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Tu es poussière. Nous sommes fabriqués, nous avons été composés à partir des éléments du sol. Et la terre a été maudite à cause du péché d'Adam et d'Ève. Je lisais un document cette semaine à propos de ce passage, et c'était un érudit qui posait la question, est-ce que Adam et Ève, est-ce qu'ils transpiraient avant de quitter le jardin d'Éden? Et en fait, ce chercheur a été assez convaincu que probablement non. Probablement les choses étaient tellement faciles, ils ne portaient pas de vêtements du tout, donc ils n'allaient pas surchauffer au point de devoir transpirer. Et apparemment les choses étaient tellement faciles que ça c'était une nouveauté. Maintenant c'est à la sueur de ton front que tu tireras la nourriture de la terre. La terre a été maudite à cause d'Adam. C'était un rappel pour Adam que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Même les composants de nos corps appartiennent à Dieu. Et si Dieu veut effectuer un changement dans nos rapports avec la terre, il a le droit. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Tout appartient à Dieu. Et nous dépendons entièrement de Dieu pour ce qui est nécessaire pour nous maintenir en vie. Un peu plus tard, nous voyons que Caïn a tué Abel pour une question d'offrande basée sur les récoltes, basée sur les troupeaux et sur ce qui était cultivé dans la terre. Encore une fois, une décision charnière dans l'histoire de l'humanité a eu lieu à cause de ce lien entre les hommes, les récoltes, la terre et Dieu. Après est venue l'époque du déluge, l'époque de Noé. Et là, nous voyons un changement qui commence dans la société humaine. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, à partir du verset 1. Genèse chapitre 11, verset 1. Après le déluge, qu'est-ce que les hommes ont voulu faire? Eh bien, ils ne voulaient plus être des agriculteurs. Du moins, beaucoup d'entre eux ne voulaient plus le faire. Genèse 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et des briques leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient protégé. » Et nous connaissons la suite de l'histoire. Dieu est descendu, il a confondu les langues, et là, il les a obligés de s'éparpiller sur la terre, de se séparer. Mais ce que nous voyons ici, c'est que la vie urbaine a commencé. Les êtres humains ont eu l'idée de se faire des villes, des villages au moins au début, et plus tard des villes. Beaucoup de gens commencent à laisser de côté cette relation étroite entre Dieu, la cultivation de la terre et leur vie, eux-mêmes. Dieu, homme, terre. Ils n'ont plus, du moins beaucoup d'entre eux, n'ont plus fait pousser leur propre nourriture. Ils ont commencé à l'acheter à d'autres qui se spécialisaient dans l'agriculture. Et le résultat, quand l'homme se sépare de la terre, le résultat, c'est désavantageux pour l'homme. Il perd de vue le fait que tout appartient à Dieu et que nous dépendons sur Dieu pour tout. Par exemple, c'est plus facile d'oublier Dieu quand nous ne voyons pas comment nos vies sont liées à sa création. Nous oublions que nous sommes tirés de la terre, quand nous ne sommes pas en contact avec les cultures. Nous ne voyons pas comment nous dépendons, du moins pas autant, comment nous dépendons de Dieu. Les gens qui habitent les villes voient moins souvent la création de Dieu et davantage les constructions des créations des hommes. Et entassés les uns sur les autres, comme c'est souvent le cas dans les grandes villes, les gens sont plus stressés, ils sont distraits par les tracasseries de la vie, et ce n'est pas toujours positif. Les expériences scientifiques avec des rats ont montré que quand il y a trop de rats en proximité les uns avec les autres, cela cause des comportements bizarres, inhabituels chez les rats. Les rats peuvent devenir névrosés par le stress de vivre entassés les uns sur les autres. Et nous ne sommes pas différents des rats. Quand nous sommes trop concentrés ensemble pendant des périodes trop longues, eh bien ça nous stresse également et ça peut créer des troubles de comportement et autres. C'est plus facile d'oublier Dieu dans de telles conditions, entouré par le béton et le ciment plutôt que des arbres et l'herbe et les champs. Aujourd'hui, nous ne semons que très peu. Nous ne nous soucions plus de savoir s'il va pleuvoir au bon moment ou pas. Il y en a, les fermiers le font, mais la plupart d'entre nous ne le faisons plus maintenant. Nous ne voyons pas de récolte à la fin de l'année que nous anticipons depuis ou pendant des mois. Nous travaillons, la plupart d'entre nous maintenant, nous travaillons pour du papier. Nous travaillons souvent à l'intérieur et à la fin du mois, on nous donne du papier. Et selon les chiffres qui sont marqués sur le papier, nous sommes heureux ou moins heureux, mais c'est artificiel dans un certain sens. Maintenant, comprenons que ce n'est pas tout mauvais, il y a des avantages à avoir de l'argent, il y a des avantages à avoir le commerce et tout ça. Je ne dis pas que c'est mauvais complètement, mais je souligne le fait que cela nous distancie de Dieu et nous fait concentrer davantage sur ce que font les hommes. C'est plus facile dans ces conditions d'oublier que tout appartient à Dieu et que nous dépendons de lui pour tout ce qui est nécessaire. dans l'Occident maintenant, dans les grandes villes où les enfants grandissent sans être en contact avec la terre ou les fermes, il y a des histoires un peu humoristiques d'enfants qui ne savent pas d'où provient le lait. On pose la question à ces enfants qui ont grandi en ville, d'où vient le lait? Et ils vont répondre, ben, du marché, du supermarché, des bouteilles. Ça vient de l'usine de lait. Ils ne savent pas parfois, parce qu'ils n'ont jamais vu de leurs yeux ce qu'il y a quelques générations n'aurait pas été, ça n'aurait certainement pas été le cas. Deutéronome chapitre 10, s'il vous plaît, Deutéronome 10, verset 14. Deutéronome chapitre 10, verset 14. Voici cette leçon très importante qui nous est soulignée par nos rapports avec la terre et les moissons. Verset 14 de Deutéronome 10. « Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. À l'Éternel ton Dieu appartiennent toutes ces choses. Tout appartient à Dieu. » Tout ce qui existe matériellement a été créé par Dieu et lui appartient. Nous n'avons droit à rien. Nous vivons parce que Dieu le veut. Par sa bonté et sa grâce, nous pouvons rester en vie. Ça, c'est une leçon très importante qu'on doit apprendre de ces lois et ces explications que Dieu a données à Israël concernant les cultures. Maintenant, c'est vrai qu'en préparant ce sermon, j'ai regardé d'autres leçons qu'on apprend. Qu'est-ce qu'un fermier doit apprendre absolument pour réussir et quelles sont ses leçons pour la vie qui viennent de la culture? Eh bien, il doit savoir planifier à l'avance. C'est pas une chose qu'il peut faire sur un coup de tête. Il faut parfois se salir les mains afin de réussir. Et ça, c'est vrai dans la vie en général. La beauté n'est pas tout. Il y a des plantes qui sont belles et venimeuses. Il y a d'autres plantes qui sont des produits qui sont des produits de la terre qui sont laids, mais délicieux et bons pour le corps. On doit apprendre de l'expérience. On apprend tout doucement ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas bien dans le jardin potager. Un bon fondement est crucial. Fondement pour un bâtiment, mais fondement pour la ferme également. Et le fondement, c'est la terre, c'est le sol. On apprend qu'on récolte ce que l'on sème. Et ça, c'est vrai dans la vie. On apprend qu'il faut agir au bon moment. On ne peut pas trop tarder, pas trop tôt ni trop tard. Il faut agir juste au moment propice. On apprend la joie de partager, parce que la terre souvent donne abondamment. Et nous avons de quoi partager avec nos voisins, nos amis, les membres de nos familles. Et nous apprenons beaucoup d'autres choses également. Ce sont des leçons qui nous viennent de l'agriculture. Et Dieu avait certainement prévu tout cela en mettant Adam dans le jardin d'Éden. Maintenant, quand Israël est entré dans la terre promise, quand Dieu leur a donné ces terres-là, il leur a aussi donné certaines lois concernant la façon d'utiliser sa terre, parce que c'était sa terre, tout appartient à Dieu. Par exemple, Lévitique chapitre 25, Lévitique chapitre 25, verset 1. Lévitique 25, verset 1. Là, nous lisons Lévitique 25:1. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. » Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne, tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos sur la terre. Ce que produira la terre pendant ton sabbat vous servira de nourriture. À toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Chaque 7e année, on ne devait pas cultiver la terre. La terre pouvait se reposer. Et maintenant, nous comprenons pourquoi. Scientifiquement, ça rend la terre plus fertile les autres 6 années. Dieu n'a pas expliqué le pourquoi, mais il a mis en place un système où on devait laisser reposer la terre. Il semble parfois à première vue qu'il y a une contradiction entre le verset 5 et le verset 6 où il dit « Tu ne moissonneras point, tu ne vendangeras point, mais tout cela te servira de nourriture. » Et en fait, l'explication en est qu'on ne devait pas faire une moisson complète. On cueillait tout ce qu'il y avait dans les champs. Et on ne devait pas faire de même avec les vignes non plus. On avait le droit d'aller flâner et de prendre et à manger comme ça. Et n'importe qui pouvait le faire pendant cette septième année. Les voisins pouvaient venir, l'étranger qui était dans les portes d'Israël pouvait le faire. Même les animaux pouvaient se restocker un petit peu en mangeant de ce qu'il y avait dans les champs. Ça serait un énorme avantage. Vous imaginez pour un agriculteur, pendant toute une année, tous les 7 ans, il a 1 an de vacances. Pas complète certainement, mais quand même presque 1 an de vacances. Un fermier qui ne cultive pas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait autre chose, il se repose. Plus de temps avec la famille. Il y aurait eu beaucoup d'avantages. Et puis, il y avait de l'abondance. Même le fait de ne pas cultiver ses terres la septième année, c'était une leçon de foi, tout d'abord, parce qu'il fallait avoir confiance que Dieu donnerait une moisson abondante la sixième année, assez pour 2 ans, et aussi que on pouvait faire confiance à Dieu et on pouvait partager avec d'autres personnes. C'était une marque de foi en Dieu, et c'était un rappel que nous dépendons de Dieu pour tout. C'est lui qui nous donne tout ce qui est nécessaire pour rester en vie. La septième année, on ne semait pas. Descendons au verset 18 également, Lévitique 25, verset 18. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la septième année, puisque nous ne sèmerons point, ou ne ferons point nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la sixième année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous semerez la huitième année, vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la neuvième année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. C'était une promesse de Dieu, c'était un rappel que Dieu s'occupait des Israélites. S'ils étaient obéissants, Dieu leur bénissait abondamment, vraiment abondamment. Et c'est vrai que Dieu offrait non seulement de bonnes récoltes, mais la protection et la nourriture. Et les pluies étaient des rappels de cela également. Je vous ai déjà parlé dans d'autres sermons du fait que la terre d'Israël, Israël moderne et Israël ancienne, la terre est fertile, mais il n'y a pas beaucoup de sources naturelles d'eau. Que la pluie vienne ou les pluies viennent dans la bonne saison était crucial de pouvoir bien vivre des terres. Encore aujourd'hui, quand on y va, j'ai eu l'occasion de visiter Israël plusieurs fois, quand vous arrivez à la frontière avec le Liban, par exemple, ou même avec la Jordanie dans plusieurs endroits, vous arrivez là, vous passez des terres fertiles et vertes, verdoyantes, et c'est un désert de l'autre côté. Et si vous voyez des photographies de l'espace, vous pouvez voir très nettement où sont les lignes, parce que les Israéliens arrivent à bien arroser, et les autres manquent d'eau ou de technologie ou de savoir-faire, ils le font moins. Un grand sujet de tension, un sujet sous tension, c'est qui a droit aux eaux du lac de Galilée, parce que c'est la source la source d'eau la plus abondante dans la région, et ce n'est pas une région qui abonde d'eau. Donc, les discussions sur qui a le droit de tirer sur ces eaux-là, c'est très important. Dieu a mis les Israélites dans une terre où il fallait que les pluies arrivent dans leur saison. Sinon, on allait avoir faim. C'était un rappel constant aux Israélites, vous dépendez de moi, et j'exige l'obéissance de vous si vous voulez être bénis. Dans Lévitique chapitre 25, toujours verset 23, voici autre chose que Dieu a fait. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Dieu avait donné des terres on consultait Dieu pour savoir quelle terre devait aller à telle famille. On jetait le sort. Et c'est Dieu qui a décidé quelle famille devait recevoir quelle terre. Et Dieu leur a dit, ces terres sont à moi. Vous êtes là de passage et vous n'avez pas le droit de vendre vos terres familiales. Si vous êtes obligé de faire une hypothèque et quelqu'un d'autre a l'usage pendant un certain temps, vous aurez le droit de racheter vos terres. Et on ne peut pas vous dire non. Vous avez toujours le droit de revenir dans vos terres familiales. Personne ne devait être coupé du sol. Personne en Israël ne devait être coupé de la terre. Ça voulait dire qu'il y avait moins d'extrêmes entre les riches et les pauvres. Et ça pouvait se combler dans une génération ou deux. On pouvait complètement retourner la situation. Il n'y aurait pas ces extrêmes de richesse ou ces extrêmes de pauvreté, comme nous pouvons le voir aujourd'hui. Tout le monde aurait accès à un moyen de gagner sa vie. Sans terrain, sans terre à soi, on est souvent à la merci des propriétaires qui peuvent continuer de gagner encore plus alors que les pauvres s'appauvrissent encore davantage. Si on étudie l'histoire de la civilisation, un peu n'importe où au monde, sur la Terre, non seulement la civilisation occidentale, mais d'autres civilisations également, une grande partie des guerres, des tensions, ça tourne autour de la lutte pour avoir des terres. Les terres sont la source ultime de richesse. Et c'est aussi l'histoire de l'oppression de ceux qui n'en avaient pas, ceux qui ne pouvaient pas disposer de terres. Dans le millénium, nous ne parlons pas tant de ça aujourd'hui, nous sommes dans une autre fête, mais soit dit en passant que dans le millénium, Dieu va réinstaurer cette sorte de civilisation agraire. Ça sera le monde à venir, le millénium, ça sera sur une base agraire. Nous nous rappelons tous de ce qui est marqué dans Michée chapitre 4, verset 4. « Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. » Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Chaque famille aura des terres, et ils vont manger des fruits de la terre qu'ils auront cultivés et que Dieu aura bénis. Donc ça, c'est une leçon qui est très importante quand nous voulons comprendre la situation entre l'humanité, les êtres humains et la terre, c'est que tout appartient à Dieu. Même si nous achetons une parcelle de terre, même si c'est dans la famille depuis un certain temps, en fait, tout cela dépend de Dieu et il peut le donner à qui il veut. Et nous voyons par le système qu'il a instauré comment Dieu voit les choses. Nous dépendons de Dieu pour tout. Pour l'air que nous respirons, pour l'eau que nous buvons, pour tout ce qui est nécessaire à la vie. Ça, c'est une leçon qui est très importante concernant les récoltes et concernant les prémices, là où nous allons venir dans quelques instants. Deutéronome chapitre 26, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 26, verset 1. Deutéronome chapitre 26, verset 1. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction, et tu lui diras, « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Et le sacrificateur recevra la corbeille de tes mains et la déposera devant l'autel de ton Dieu. » Descendons au verset 10. « Maintenant voici, j'apporte les prémices du fruit du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. » Ancien Israël donnait des prémices. Il devait donner des prémices. Maintenant, il est possible que cette cérémonie-là avec la corbeille, ça c'est peut-être une cérémonie unique qui se faisait juste à leur entrée dans la terre promise. Il donnait des prémices par la suite, bien entendu, mais là, c'est possible, certains érudits pensent que ça, c'est vraiment une cérémonie à part, qu'on faisait une fois. Regardez, je suis entré en possession des terres que tu m'as promis, et je t'adore maintenant en te donnant des prémices de ce que ces terres m'ont donné. La Pentecôte, nous le savons, est parfois appelée la fête des prémices. La fête des prémices. Et je voudrais m'étendre là, sur ce point-là, pour nous inviter à poser la question, quelles sont les leçons que nous devrions apprendre des prémices et de la Pentecôte? Les prémices et la Pentecôte. Pourquoi est-ce que la Pentecôte serait appelée la fête des prémices? Ça, nous avons déjà répondu un peu à cette question. C'est seulement quand on... qu'on agitait la gerbe pendant la fête des pains sans levain, on commençait le comptage jusqu'à la fête de la Pentecôte, c'est là où on pouvait commencer à manger les prémices des blés. Et la fête de la Pentecôte était une célébration de la fin de cette moisson-là. Donc c'est en partie pour ça qu'on appelait prémices, mais nous allons voir qu'il y a des significations beaucoup plus profondes également. Nombre chapitre 18, maintenant, s'il vous plaît. Nombre chapitre 18, verset 1. Nombre chapitre 18, verset 1. L'Éternel dit à Aaron, « Toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. » Donc, il est question du sacerdoce lévitique, et le sacerdoce d'Aaron en particulier. Maintenant, regardons le verset 12. « Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel, tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. » Alors là, nous voyons déjà quelque chose d'important concernant les prémices qu'on devait donner à Dieu. Les prémices... Le mot veut dire premier. En fait, le mot en hébreu et en grec peut dire autre chose, et nous allons parler de ça tout à l'heure également. Mais le mot que nous employons en français, ça veut dire les premiers fruits qui sont portés. Mais ici, c'est pas seulement, nous voyons que c'est pas seulement les premiers dans l'ordre, les premiers quelques fruits qui poussent et les premiers quelques blés qui poussent. Il a dit que ça serait ce qu'il y avait de meilleur. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Donc les prémices, c'était pas seulement les premiers dans l'ordre chronologique, c'était les premiers en qualité également. Quand on donnait les prémices à Dieu, il fallait donner ce qu'il y avait de mieux. Ce qu'il y avait de mieux. Aujourd'hui encore, souvent les agriculteurs, ils gardent les meilleures semences, ils savent reconnaître les meilleures semences, ils gardent ça pour pouvoir semer l'année prochaine, pour avoir une meilleure récolte. Ils mangent ce qui est moins bien, et ils gardent ce qui est de mieux pour semer, pour la semence. Les viticulteurs, souvent, ils savent dans quel coin dans leur vignoble vont venir les meilleurs vins, où les raisins sont particulièrement bons, notés, pour le vin qu'ils peuvent donner. Quand nous habitions en Alsace, par exemple, parfois on donnait des noms à certains coins de champ. Et ces noms se trouvaient sur les bouteilles de vin par la suite. Ça venait de tel coin. C'est ce qu'il y a de meilleur dans mes vignobles. J'ai déjà discuté avec des apiculteurs qui savent quel champ risque de donner le miel le plus parfumé ou le plus sucré. Parce que ça varie d'un endroit à l'autre. Les olives. Quand on cueille des olives, les meilleures olives sont cueillies à la main. On sait choisir les olives les plus gros ayant le plus d'huile. Et c'est ainsi qu'il y a des qualités d'huile d'olive qui sont différentes selon les olives et selon l'endroit. Ce sont des illustrations modernes, si vous voulez, de prémices. Ce qu'il y a de mieux, le meilleur coin de la terre, le meilleur coin de vignoble, c'est là où on va voir ce qu'il y avait de mieux. Quand nous habitions à Saint-Chamas, près de Salon-de-Provence, dans le midi de la France, nous avions, pendant le temps que nous habitions là, un mini-mélinium. On avait une vigne, on avait un figuier. La vigne ne donnait pas grand-chose, mais alors le figuier, oh là là, c'était un figuier qui était formidable. Et nous avons appris, pendant le temps de notre séjour là, que certaines figues sortent plus rapidement que d'autres. et que souvent les premiers à sortir chez les figues étaient meilleurs que ceux qui allaient suivre. Et puis on savait regarder à certains endroits sur l'arbre également. Les figues qui étaient plus près du tronc, qui étaient plus protégées, qui étaient mieux nourries parce que la sève était plus proche, eh bien ces figues-là étaient plus sucrées, avaient meilleur goût, c'était nos figues préférées. Mais attention, il fallait les guetter parce que c'était des figues préférées des oiseaux également. Et si on n'était pas assez rapide, on pouvait perdre une grosse quantité. Ça, c'est une autre illustration de ce que c'est que les prémices. Ce qu'il y a de mieux, le plus juteux, le plus délicieux, ce qu'il y a de mieux dans le moisson. Dans Jérémie chapitre 24, Jérémie connaissait quelque chose à propos des figues. Jérémie 24, verset 2. Au verset 1, l'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut amené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconiah, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Déjà, quand Jérémie pensait aux meilleures des figues, c'était des figues de la première récolte, les prémices, en d'autres termes. Donc, c'était quelque chose que qu'on connaissait bien. Maintenant, je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais je vous donnerai d'autres références ici que vous pourrez vérifier après, si ça vous intéresse, concernant les figues. Osée chapitre 9, verset 10. Prémices, et Michée chapitre 7, verset 1. Osée chapitre 9, verset 10, et Michée chapitre 7, verset 1. Les prémices voulaient dire les meilleurs en qualité. Et c'est pas toujours les premiers qui sortent. Si vous avez vu parfois des premières fraises ou des premières oranges qui arrivent sur un arbre ou sur un arbuste, eh bien les premiers ne sont pas toujours formidables. Ça, c'est pas l'idée des prémices. C'est peut-être les premiers à sortir, mais ce ne sont pas les meilleurs, les plus juteuses, etc. C'est ce qu'il y a de mieux. Quand nous revenons, on parlait tout à l'heure de Caïn et Abel et l'offrande qu'ils ont donnée à Dieu sur la base de leurs revenus, ce qui venait de leur travail. Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. En d'autres termes, ils choisissaient ce qu'il y avait de mieux. Les premiers-nés ont encore cette idée de qualité supérieure. D'offrande de Caïn, c'est des fruits de la terre, sans qualification. Mais quand nous arrivons à l'offrande d'Abel, il a fait une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, ce qu'il y avait de mieux. Et le résultat, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité, son visage fut abattu, et nous connaissons le reste de cette malheureuse histoire. Abel a donné des prémices. Caïn apparemment pas, peut-être qu'il gardait le mieux pour lui, et il donnait ce qu'il y avait de moins bien. Est-ce que c'était ça la différence? Apparemment, d'après le texte que nous avons ici. Maintenant, certainement derrière tout ça, il y avait une différence dans leur attitude, dans le respect qu'ils montraient envers Dieu, mais aussi la qualité de l'offrande qu'ils donnaient. Bien, maintenant, quelles sont quelques leçons que nous devons apprendre à propos des prémices et la fête de la Pentecôte? Eh bien, une première leçon que nous voyons à travers ce que nous avons vu ici jusqu'à présent, c'est que Dieu s'attend à recevoir de notre meilleur. Dieu s'attend à recevoir de notre meilleur. Quand il a dit qu'on doit lui donner des prémices, ça veut dire que nous devons lui donner ce qu'il y a de mieux. Maintenant, si Dieu ne s'intéresse pas tant aux légumes et aux raisins et autres, pour nous maintenant, nos sacrifices sont surtout, pas uniquement, mais surtout d'ordre spirituel. Les Israélites, nous avons vu, ils devaient choisir ce qu'il y avait de meilleur. Pour le vin, cela aurait pris du temps, probablement au moins un an avant de pouvoir choisir quel vin on offrirait à l'Éternel. Et quelle serait l'application pour nous? En quoi devons-nous donner de notre meilleur à l'Éternel? Eh bien, permettez-moi de donner quelques suggestions. Premièrement, notre temps. Nous devons donner à Dieu le meilleur de notre temps. Parce que notre relation avec lui exige du temps, que nous passions du temps à certaines activités. Nous devons prier, nous devons étudier sa parole, nous devons réfléchir profondément pour tirer des leçons de ce que nous voyons dans sa parole. Nous appelons ça la méditation, la réflexion. Nous devons donner de ce que nous avons de meilleur à l'Éternel. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous nous efforçons de donner la meilleure partie de la journée à l'Éternel? Ou est-ce que c'est à la fin de la journée, quand on est exténué et on essaie d'assembler nos pensées pour lui dire quelques mots avant de nous coucher? Nous devons veiller à donner à l'Éternel ce que nous avons de mieux. 1 Samuel chapitre 2, verset 29. Nous allons commencer au verset 29. Nous sommes dans le contexte du début de la vie de Samuel et son prédécesseur, Élie, qui était le juge et le prophète. Et Élie a laissé faire ses fils quand il n'aurait pas dû. Et Dieu n'a pas vu d'un bon œil le fait qu'il laisse faire ses enfants, qui n'étaient pas des petits-enfants, c'était des hommes, et qui se sont comportés honteusement, et Élie n'a rien fait. Alors, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 29, Dieu pose la question à Élie. « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi ?» afin de vous engraisser des premiers de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu regarde, il veille à ce que nous faisons, à notre manière de nous comporter vis-à-vis de lui. Et il espère, il attend à ce que nous lui donnions du meilleur que nous pouvons. Dans notre temps, que nous devrions être frais et dispos quand nous parlons à Dieu dans la prière, quand nous plongeons nos regards dans sa parole, quand nous réfléchissons, qu'est-ce que je dois prendre de ce passage, de cette expérience? Comment est-ce que je peux m'aligner plus étroitement avec l'exemple que Dieu nous donne? Est-ce que nous donnons du meilleur que nous avons à Dieu? Ou est-ce que nous lui donnons des restes? C'est une question à se poser. C'est une façon de donner les prémices à Dieu, les prémices de notre temps, de notre journée, de notre semaine. Une autre suggestion, nous devons être généreux envers Dieu selon les bénédictions qu'il nous donne. Selon les bénédictions qu'il nous donne. Nos offrandes devraient être choisies avec soin pour donner de notre mieux à l'Éternel. Nous devons faire preuve de générosité avec les autres aussi, ceux qui nous entourent, quand nous pouvons le faire, mais aussi dans nos offrandes à l'Éternel. Proverbes chapitre 11, verset 25 dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » En français, parfois, on a le dicton « Ah, ça, c'est l'arroseur arrosé », dans un sens péjoratif. Il a fait un mauvais coup à quelqu'un et maintenant, il en prend plein le visage. Mais si, c'est pas dans ce sens-là, c'est d'autres façons. Celui qui arrose, celui qui est généreux avec les autres, il sera arrosé, il recevra également des bénédictions. Regardons Proverbes chapitre 21, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 21, verset 25. Proverbes chapitre 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Le désir du paresseux le tue, ses mains refusent de travailler. Lui, il n'a rien à donner à quelqu'un, même s'il voulait le faire, parce qu'il ne gagne rien, il ne crée rien. Mais, en revanche, le juste, parce qu'il est travailleur, il amasse, il est capable de partager avec d'autres personnes. Et il donne sans parcimonie. Il n'est pas avare, il est généreux. Selon les moyens, ce n'est pas nécessaire d'appauvrir sa famille pour donner, mais quand nous sommes dans l'abondance, c'est bon de partager avec d'autres personnes. Dieu n'a pas demandé toutes les prémices à Israël. Il n'a pas demandé tout ce qu'il y avait de meilleur. Il a demandé des prémices. Il a laissé à l'individu le soin de choisir combien donner dans les offrandes de prémices. C'est la même chose dans nos offrandes et la générosité que nous témoignons au moment des fêtes de l'Éternel ou quand nous sommes les uns avec les autres. C'est une chose à considérer en préparant nos offrandes, les offrandes que nous allons donner à l'Éternel. Des petites choses peuvent faire parfois une grande différence. Et la générosité que nous témoignons envers des personnes qui nous entourent aussi peuvent faire autant. Il y a une histoire qui est venue d'un petit village aux États-Unis, quand c'est l'histoire d'un garçon qui entrait dans le café et il voulait manger une glace. Et il savait qu'il y avait une grande glace et il y avait une petite glace. Alors un garçon est entré un jour pour demander combien coûte une grande glace. Et la serveuse a dit $2. Il a sorti des pièces de sa main, il commençait à compter, il examine les pièces qu'il avait, puis il a demandé combien coûte la petite glace. Maintenant, il y avait d'autres gens à d'autres tables qui commençaient à s'impatienter parce que le garçon posait tant de questions. Elle s'est impatientée, elle a dit $1.60. Elle a répondu brusquement. Le petit garçon a encore regardé ses pièces, il les a comptées, et puis il a dit « Je prendrai une petite glace, s'il vous plaît ». Le garçon a mangé sa petite glace, il a payé au comptoir avant de partir, et quand la serveuse est venue pour nettoyer la table, vous savez, le service n'est pas compris dans les cafés aux États-Unis, c'est à chacun de donner un pourboire s'il veut le faire, et quand la serveuse est venue pour nettoyer la table, elle s'est arrêtée surprise devant la table, parce que là, à côté du bol à glace, il y avait 40 centimes, c'était son pourboire. Et là, elle était un peu secouée parce qu'elle n'avait pas été très gentille avec le petit garçon, elle s'impatientait, et pourtant, il a pris très soin de ne pas la léser dans son pourboire. Parfois, juste des petites choses comme ça, dans notre façon de traiter notre entourage, eh bien, ça fait beaucoup de bien. Je peux vous donner un exemple d'une chose que mon épouse et moi avons fait récemment, pas pour sonner la trompette, mais je pense que c'est un exemple qui est mignon. Les voisins à côté de nous, que nous ne connaissons pas trop bien, la maman avait une pancarte devant la maison pour dire que sa fille arrivait à la remise des diplômes du lycée, qu'elle allait recevoir son diplôme, passer le bac, qu'elle allait continuer sa vie. Et c'est une chose que les parents font parfois aux États-Unis pour célébrer la réussite des enfants. Eh bien, on s'est dit, on ne les connaît pas trop bien, mais c'est quand même quelque chose de bien. On va lui acheter une petite carte cadeau. Vous savez, c'est une carte électronique qu'on peut utiliser pour acheter des choses en commerce. On n'a pas donné grand-chose, hein, mais c'était la pensée. Puis avec une carte, on lui a donné, on l'a félicité d'avoir franchi ce cap, et elle était franchement abasourdie que des voisins qui ne connaissaient qu'à peine, on s'était vu quelques fois seulement, qu'on se donne la peine de lui offrir juste un petit quelque chose. Comme j'ai dit, c'était pas une grosse somme, hein, c'est un petit cadeau. Mais elle était choquée, parce que ça arrive si rarement. Et c'était même son grand-père qui ne cessait de nous remercier. Mais ça, alors, j'ai jamais vu ça. Merci beaucoup. Il était très frappé. Et ça valait le coup pour nous, les quelques dollars qu'on a dépensés. C'était vraiment pas grand-chose. Et c'était clair que ça lui avait fait une grande impression. Parce que les gens, du moins, chez nous, ça ne se fait pas beaucoup. Il était très frappé. Ça arrive à la fin de la fête des tabernacles en France, presque chaque année également. Parce qu'à la fin de la fête des tabernacles, l'équipe qui nous sert dans les centres de vacances où nous sommes parfois ils nous soupçonnent d'être un peu bizarres, une secte, etc. Et parfois, même au début de la fête, parfois, dans certains endroits, ils ont été même un peu rudes avec nous. Mais à la fin de la fête, on donne un pourboire et chacun cotise ce qu'il peut. Et ça arrive, quand nous sommes 100 personnes, ça arrive à une belle petite somme. Et là aussi, c'est très frappant de voir la réaction des membres de l'équipe. Et parfois, on voit qu'ils ont un peu honte, ceux qui étaient un peu rudes avec nous au début, impolis, parce que on était généreux avec eux et ils apprécient énormément. Et si jamais nous revenons dans le même site l'année prochaine, on est accueillis comme des rois. Ils apprécient vraiment. Une petite attention, petite générosité comme ça, ça peut faire énormément. La générosité fait une grande impression sur les gens. Le fait de penser à leurs besoins. Ça fait partie du fait d'être des prémices, de donner ce que nous pouvons, de faire de notre mieux. Deuxièmement, la Bible dit que nous sommes des prémices. Dieu nous considère comme des prémices. Et alors nous devons nous poser la question, est-ce que nous remplissons notre rôle? Regardons Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 18. Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. L'Église de Dieu, maintenant, depuis que Jésus l'a fondée, eh bien, cette Église-là est composée de prémices, les premiers fruits, les premiers fruits. La grande récolte viendra plus tard. Pour le moment, c'est un petit troupeau. Les prémices sont peu nombreuses. Mais Dieu nous considère comme les prémices. Et ça veut dire qu'il veut que nous montrions la qualité des prémices. Est-ce que nous sommes de la meilleure qualité possible pour nous? Est-ce que nous nous efforçons vraiment de faire de notre mieux? Nous ne pouvons pas arriver à ce qui est nécessaire de nos propres moyens. Nous le comprenons. Il nous faut l'aide de Dieu. Mais nous devons quand même faire notre part aussi, nous efforcer de montrer le meilleur exemple possible. De toujours faire honneur à notre Père Céleste. Dans Éphésiens chapitre 5, si nous revenons quelques pages en arrière, Éphésiens chapitre 5, l'Église de Dieu est composée de prémices. Nous sommes prémices aux yeux de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Mais prenons le verset 25 pour ne pas couper une phrase en deux. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est comme ça que Dieu veut nous trouver en tant qu'Église. Et l'Église doit être composée d'individus qui sont comme cela également. Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Évidemment, ce n'est possible qu'avec l'aide de Dieu. Il nous faut l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir viser cela. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas notre rôle à jouer. Nous avons notre rôle à jouer également. Nous devons être de la meilleure qualité spirituel possible. Ça doit être un but tous les jours. Un de mes héros, depuis mon enfance, depuis que j'ai commencé à lire ces histoires, était l'un de nos présidents américains, Abraham Lincoln, qui a libéré les esclaves aux États-Unis. C'était un grand homme. Il était très sage, très capable et très humble toute sa vie. Lincoln, dans sa jeunesse, était avocat et à un moment donné, il discutait avec un homme très têtu. Comme il ne pouvait pas convaincre cet homme, Lincoln lui dit, « Voyons, combien de jambes a une vache ?»« 4, bien sûr, » répliqua l'homme impatient. « C'est vrai, mais supposons qu'on appelle la queue de la vache une jambe. Alors, combien de gens aurait la vache dans ce cas-là »« Eh bien sûr, 5, bien sûr, » a dit Dean. Il a dit avec beaucoup de confiance, cet homme têtu. Et Lincoln a répondu, « Non, mon ami, là, vous avez tort. » Le fait qu'on appelle la queue de la vache une jambe, ça ne veut pas dire que c'est une jambe. On peut l'appeler ce qu'on veut, ça reste une queue. Et le fait que vous insistez qu'une chose est vraie, ne veut pas dire que c'est vrai. Et Je ne sais pas s'il a... J'ai pas lu la fin de l'histoire pour savoir s'il a gagné la dispute ou pas, mais ce qu'il a dit là est vrai. Le fait d'appeler une chose, ne veut pas dire que c'est vraiment le cas. Et nous ne voulons pas être prémices en parole seulement. Nous voulons être prémices en réalité. Et ça, il faut un effort, il faut la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu, mais nous avons aussi notre rôle à jouer. Romains chapitre 12, nous devons être des prémices en fait et pas seulement en nom. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, où nous nous donnons entièrement. Nous nous donnons entièrement. Les sacrifices vivants. Les prémices étaient des offrandes. Nous sommes des offrandes. Nous devons être des offrandes, entièrement données au service de l'Éternel. Et nous devons rester tout près du tronc, tout près de la cèpe, du cèpe, comme nos figues dans le sud de la France. Notre tronc, notre cèpe, c'est Jésus-Christ. Et si nous demeurons attachés, nous ne pouvons pas porter le fruit que Dieu veut pour nous. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, passage que nous lisons au moment de la Pâque. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, et on le jette au feu, et il brûle. Nous devons rester attachés au cep, rester tout près de Dieu. Et nous savons, nous avons déjà parlé des outils qui nous permettent de nous placer là à côté et de rester attachés au cep. Devons rester près du cep, protégé, nourri spirituellement. Nos rapports personnels avec Dieu sont de la plus grande importance. Je vais vous parler d'une dernière partie de la définition des prémices. Un dernier aspect de cette définition. Ça peut être défini également comme ce qui éclate ou qui éclot soudain. Ce qui éclate ou qui éclot soudain. Parce que parfois, il y a des fruits qui semblent mûrir dans la nuit. En se couchant le soir, c'est pas prêt encore. Et puis, le lendemain matin, en se levant, c'est mûr. Et on peut le manger, on peut l'apprécier. Eh bien, ça va être pareil pour le peuple de Dieu quand ils vont entrer dans la vie, finalement, au retour de Jésus-Christ. Au moment de la septième trompette, quand nous serons transformés en êtres spirituels, la Bible parle d'un pays, d'une famille, on pourrait dire, mais un pays qui va venir à voir le jour tout d'un coup. Nous voyons ça dans Ésaïe 66. Ésaïe 66. Beaucoup de gens vont être surpris ce jour-là quand ils vont voir le peuple de Dieu naître dans la famille divine tout d'un coup. Ésaïe chapitre 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Et ça, c'est symbolique, c'est prophétique de ce qui va arriver au retour de Jésus-Christ. Quand la septième trompette sonnera, une nation spirituelle va voir le jour, immédiatement. Et beaucoup de personnes vont être surprises à ce moment-là. Beaucoup de personnes vont être surprises. Vous voulez dire que Jeannot, que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai travaillé, il fait partie de la famille divine maintenant? Quoi, mon fils, ma fille, quoi, ma femme, mon mari? il y aura des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe actuellement. Et là, dans ce moment-là, il y aura ce que la Bible appelle la révélation des fils de Dieu. Tout d'un coup. Un dernier passage, regardons 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Verset 57. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous allons devenir mûrs, tous ensemble, en même temps. Dieu n'oubliera rien de nos efforts pour lui plaire, pour accomplir sa volonté dans nos vies. Il voit tout, il se souvient de tout, il n'oublie rien, et lui, il prépare nos récompenses maintenant. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte, considérons ces leçons liées aux prémices. Premièrement, nous devons tout à Dieu. Tout lui appartient. Et tout ce que nous recevons de ses mains, c'est par sa grâce. Dieu s'attend à ce que nous lui donnions ce que nous avons de notre meilleur. Notre temps, notre effort, notre générosité dans tout ce que nous faisons. Et troisièmement, la Bible nous appelle des prémices. C'est une signification de ce jour. L'Église fondée, les prémices. Fondés en ce jour. Nous sommes des prémices, et ça, c'est un grand appel. C'est un très grand appel. Nous devons être des offrandes de qualité à notre Créateur. Frères et sœurs, accomplissons notre appel, et joyeuses fêtes.